La semaine passée, les pèlerins de notre ensemble interparoissial ont pu prier près de Saint François, Sainte Claire, Catherine de Sienne. Et puis nous avons eu la chance aussi de visiter de magnifiques édifices. Et dans l'église Santa Maria Novella, il y a une fresque saisissante qui évoque précisément la fête de la Toussaint. Ce qui est marquant, c'est qu'on peut voir une multitude de visages. Et tout d'abord, il y a les visages auréolés et dont on peut identifier la personnalité. Grande figure de l'histoire de l'Église jusqu'à la fin du XIVe siècle, date où il y a l'auteur de cette fresque. Et puis, il y a une foule immense d'hommes et de femmes. Et nous voyons que les uns et les autres sont présents dans la diversité de leur vocation. Alors, on pense au mot « tout saint ». Tous saints, tous sont là dans la gloire de Dieu. Et tous nous sommes appelés à la sainteté. C'est notre vocation baptismale. Et lorsqu'on prend le temps de contempler cette fresque, bien entendu, on pense à Saint Jean, le visionnaire de Patmos. Dans sa vision prophétique restituée dans le livre de l'Apocalypse, c'est ce que nous venons d'entendre il y a quelques instants, il aperçoit dans l'au-delà, dans le ciel, cette foule immense, impossible à dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues. Personne ne peut dénombrer cette foule. Alors bien sûr, il y a tous ceux et celles dont les noms sont consignés dans les Acta Sanctorum, c'est la liste officielle de l'Église romaine. Et quand on regarde la fresque, on est ému devant tous ces visages qui ont marqué l'histoire de l'Église et en même temps, on pense à tous ceux et celles qui ont été béatifiés, canonisés depuis le XIVe siècle. Et on pense aussi à ce phénomène d'accélération voulu par les derniers papes, et singulièrement par le pape Jean-Paul II, qui a lui-même béatifié 1338 personnes et présidé à la canonisation de 482 personnes. Un souhait pastoral, une volonté pastorale de faire en sorte que nous tous, nous puissions comprendre que la sainteté, qui est une prérogative de Dieu, est accordé à ceux et celles qui se rendent disponibles et que cette sainteté, puisqu'elle est la sainteté même de Dieu, est toujours d'actualité. Et puis, il y a une autre donnée qui est très importante. Il s'agit de visages. Il ne s'agit pas d'une foule informe, il ne s'agit pas de masse. La masse, c'est lorsque les hommes s'agglutinent, vocifèrent, et s'enivrent de leurs propres cris. Ils se suivent, les uns les autres, ne voyant que le dos de ceux qui les précèdent ou la nuque de ceux qui les précèdent. Alors que la foule évoquée dans la Bible est une foule de visages. C'est une donnée fondamentale de notre foi. Dieu, en Jésus, s'est fait visage. Tout homme, toute femme, est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Le visage est notre identité. Et par conséquent, et c'est inscrit dans la Bible, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas dérober notre visage à notre prochain. Et c'est notre visage qui nous induit dans la relation à autrui. Alors à partir de ce moment-là, nous comprenons qu'il y a la tyrannie des nuques et des dos face à l'harmonie des visages qui chantent la gloire de Dieu. C'est cela, la Toussaint. Ces hommes et ces femmes ont eu un cœur droit, pas parfait, mais un cœur droit. Ils ont voulu semer autour d'eux la miséricorde et le réconfort. Ils ne furent pas de ceux qui se sont grandis au mépris, au détriment des autres, en particulier des plus vulnérables. Consoler l'autre leur apportait davantage que leur propre consolation. Leur cœur et leurs mains s'ouvrirent aux autres, car ils ne se croyaient pas au centre du monde. Et il faut toujours rappeler, frères et sœurs, que dans la grande tradition biblique, s'il y a 10 commandements, c'est comme les 10 doigts de nos mains, des mains ouvertes pour nos frères. Ces hommes et ces femmes ont voulu avoir une vision christocentrique de la vie, c'est-à-dire avoir le Christ comme point de repère, et non pas l'égocentrisme, c'est-à-dire leur propre être, leur propre devenir. Ils n'étaient pas remplis de leur propre importance, mais ils étaient vides comme des coupes à remplir. Et il faut toujours rappeler le mot sublime de saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Frères et sœurs, la sainteté, redisons-le, ce n'est pas vouloir se hisser à la hauteur de Dieu. C'est tout simplement, humblement, là où on est, se faire un creuset, un réceptacle, pour que Dieu puisse nous remplir de sa sainteté. Voilà, tels sont les visages de ces hommes et ces femmes qui sont dans la gloire de Dieu. Et puis, rappelons-le, ils n'ont pas voulu échapper à leurs conditions humaines, au contraire. Ce qui a fait leur sainteté, c'est de vouloir s'investir totalement avec leurs limites, avec leurs défauts, mais aussi avec leur charisme et leur disponibilité à la sainteté de Dieu. La sainteté, ce n'est pas s'extraire de notre humanité, c'est vouloir y inscrire la sainteté de Dieu. À partir de ce moment-là, nous pouvons laisser en nous résonner ce mot sublime de Grégoire le Grand. La sainteté, c'est un amour qui ne se tient pas à distance dans une pureté intouchable, mais c'est un amour qui se mêle à la boue du monde pour la surmonter. Voilà, frères et sœurs, la raison de notre joie. Tant d'hommes et de femmes constituent cette foule immense qui chante aujourd'hui la gloire de Dieu, et c'est aussi laisser résonner en nous cet appel à la sainteté.